Et notre invité ce matin sur Kaolin, c'est un humoriste, le comte de Boudère-Balla, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être là de bonne heure. C'est la petite question rituelle d'ailleurs, le matin traditionnel du comte de Boudère-Balla, qui est peut-être d'ailleurs un peu différente du matin de Samy Améziane, en fonction qu'on enfile le costume de l'artiste ou pas. Ça ressemble à quoi votre matin habituel?
Ben, on se réveille, on met son nez rouge et puis on va travailler comme tout le monde.
Hein. De bonne heure ou plutôt marmotte?
Je finis tard, mais dès que je peux me réveiller un peu tôt pour profiter de la journée, on y va. Mais c'est vrai que c'est plus un coup de 10h que de 7h du matin.
Donc là, on est en marathon promo, on va dire. C'est quelque chose de facile. C'est quelque chose d'assez différent de la vie d'artiste. On n'est pas vraiment sur scène, c'est pas le cœur de métier. C'est quelque chose de facile, c'est une autre facette du métier.
Ouais, c'est une autre facette du métier, mais après, pour moi c'est souvent compliqué parce que c'est jamais évident de se vendre entre guillemets en tant que comique. Hein, c'est hey les gars, je suis marrant, venez me voir. C'est très difficile.
C'est ce qu'on attend de vous à chaque fois quand on vous parle. On attend le rigolo, la blague, et c'est garder le sourire. Il faut le vivre même au bout de la 150e fois.
Voilà, on est des ambassadeurs de bonne humeur, de rigolade. rien ne nous arrête, rien ne nous touche.
Voilà, et vous êtes toujours heureux évidemment et drôle. On va parler d'humour évidemment avec vous, mais aussi basket. On va commencer par ça parce que c'est un peu par ça que vous avez commencé. Vous vous destinez, vous, à une carrière professionnelle de sportif, de basketteur, et pas des moindres, puisque vous êtes allé à un beau niveau international.
Au départ, c'est vrai que j'étais pas du tout parti pour ce métier de comique. J'étais parti pour le basket. Et j'ai joué un peu à droite, à gauche. J'ai fait quoi en France? J'ai fait toutes les divisions sauf la première, la meilleure, forcément. Comme je dis dans le spectacle, hein, physiquement, sur le terrain, j'étais déjà une blague. Sinon, j'ai joué en équipe d'Algérie. Sinon, j'ai joué aux États-Unis en universitaire à Connecticut un an. Mais non, ça va, j'ai pas de regrets. Franchement, j'ai eu des bons moments dans ce sport magnifique.
Il y a l'histoire qu'on vous demande toujours de raconter, c'est comment on arrive dans des équipes de basket américaines. Vous, c'est vraiment des hasards de la vie magiques, comme on en vit très rarement. Et vous, ça se passe chez le coiffeur, le truc assez improbable, quoi.
Exactement. Ça s'est passé dans un salon de coiffure et la coiffeuse qui me met en connexion, ça se passe aux États-Unis, avec un des coachs. Et à l'issue de la rencontre avec cet entraîneur, il me met à l'essai pour jouer dans l'équipe de la fac. Et puis, fin de l'essai, il me dit, c'est bon, tu es pris dans l'équipe. Et ben, j'ai dit, merci la coiffeuse. 6 mois avant, j'étais à Saint-Denis, en train de regarder le match, la finale universitaire Georgia Tech Connecticut. Et 6 mois après, je me retrouve dans le vestiaire de Connecticut à jouer avec les mecs que j'avais vus à la télé. Enfin, voilà, qui l'eût cru?
Et vous avez dit que l'Amérique, finalement, c'est le pays où on vous a dit oui tout le temps, alors qu'en France, c'était plutôt tendance à vous dire un peu non pour tout. Ça, c'était un petit regret de vous dire finalement pourquoi ça m'est pas arrivé chez moi, sur mes terres.
Oui, c'est un petit regret. Et pour faire une petite parabole, je dirais qu'en France, on fait tous du saut à la perche et on doit sauter à 8 mètres. Et quand on va dans les autres pays, on se rend compte que la barre est à 5 mètres. Donc c'est un petit peu dommage parce qu'on perd beaucoup de sauteurs dans cette histoire.
En revanche, vous êtes aux États-Unis reconnu, notamment le milieu du basket. Hein, on sait qu'on devient superstar assez rapidement, surtout quand on est français, en tout cas quand on vient de France. C'est quelque chose que vous avez vécu et on parlera après du retour en France, mais c'est finalement une reconstruction à opérer.
Oui, forcément, parce que les États-Unis, c'est vraiment le pays du basket. Hein. Ils respirent basket 24 heures sur 24. Donc, quand on joue au basket dans la fac qui est championne en titre des États-Unis et on est de surcroît, on est français. Bon, voilà, c'est un petit peu le double bonheur. Mais c'est vrai qu'en rentrant en France, forcément, il faut se réadapter. Mais bon, c'était une expérience, c'était intéressant de voir ce qui se passe ailleurs. Et puis après, il faut aussi se dire ce qui se passe en France, c'est très très important. Et puis on a voulu essayer de changer un petit peu les choses en France.
Et puis le basket qui reste cher à votre cœur évidemment. Je sais que dans le spectacle vous parlez notamment de Limoges. Comment faire autrement? Vous êtes là en terre de basket et c'est quelque chose qui est déjà au cœur de votre spectacle de toute façon.
Ouais, non, j'ai toujours voulu charrier un petit peu que ce soit le basket français ou le basket américain parce que forcément c'est un sport où il y a matière à charriade, hein, que ce soit dans les vestiaires entre les potes ou sur le terrain face aux adversaires. Et ouais, voilà, c'était propice. Donc voilà, dans le spectacle, je parle un petit peu de nos chères équipes de basket françaises.
Donc vous vous attendez à quoi sur la scène du Zénith le 6 juin pour le spectacle?
Je pense que je pourrais me faire huer pendant quelques secondes, mais bon, c'est toujours bon enfant, hein, qui aime bien, châtie bien.
On verra que vous ne faites pas dans la demi-mesure, on en parlera dans quelques instants dans la deuxième partie de ce rendez-vous. Mais revenons donc, l'après-basket, c'est ce virage de l'humour. Ça s'est passé comment ? C'est comme souvent les grands sportifs, c'est sur blessure où on est obligé d'arrêter la carrière de sportif et on essaye de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire d'autre, c'est ça ?
Ouais, il y a eu de ça, et puis voilà, moi j'ai toujours été intéressé par d'autres choses. J'avais continué mes études en même temps que je jouais au basket, et je trouvais que j'avais découvert la scène sur le tard, et je me suis dit, bah tiens, ça serait marrant d'aller sur scène et de parler des sujets qui nous intéressent avec l'humour, parce que l'humour, ça m'a toujours baigné, et j'ai toujours aimé charrier les copains.
Dans les vestiaires.
Ouais, c'est voilà, culture de la charriade, le basket. Et donc, voilà, j'ai voulu en faire un spectacle, et voilà, et comme tu disais, je m'étais blessé, donc c'était l'opportunité.
Et il y a le coup de pouce, on va dire, d'un pote, visiblement, c'est Grand Corps Malade, qui a un petit peu poussé derrière pour dire, vraiment, je sens que pour toi, la scène, ça peut être vraiment ton truc.
Oui, on avait commencé au slam ensemble en 2003 grâce à un ami qui s'appelle Jackie Ido qui nous a amené sur notre première scène slam, Fabien et moi. Et donc oui, c'était l'opportunité de... Voilà, c'est des potes qui vous poussent et puis on fait des choses ensemble, on avance ensemble et puis après chacun prend son envol et oui, c'est notre histoire, ce sont des amitiés d'enfance.
Alors, il y a ceux qui vous découvrent peut-être aujourd'hui, qui se disent oui, c'est un artiste qui commence sur la scène française tout juste. En fait non, ça a commencé aux États-Unis, les premières scènes c'était là-bas, ce qui d'ailleurs donne un peu à votre style, si on regarde notamment des extraits sur internet pour ceux qui vous connaissent pas, il y a un style stand-up à l'américaine sur la façon de placer les vannes, le rythme notamment, ça vous le puisez de cette expérience, cette première expérience aux États-Unis.
Bah, le fait de jouer en anglais aux États-Unis face à un public américain qui n'est pas là pour voilà, qui vous juge très très sévèrement.
Beaucoup plus dur qu'en France.
Plus dur qu'en France parce qu'ils sont tellement pragmatiques qu'ils se disent bah voilà, j'ai payé, j'ai envie de rire. Donc il n'y a pas le côté social où bon, le pauvre il essaie de faire du théâtre. Hein. Si c'est de la merde, limite il monte sur scène et il t'en met une. Donc voilà, c'est très spécial, mais le fait de jouer dans une langue étrangère et face à des publics hostiles, bah, tu gagnes en maturité, en rythmique, en expérience, et puis c'est, voilà, c'est une superbe école.
Le personnage du comte de Boudherbala, donc, qui a pris le pas sur Sami Amezian, il est né dès les premiers spectacles aux États-Unis ou c'est un personnage qui est né pour le retour en France ensuite ?
Ouais, il est né en France sur les scènes slam à l'époque. Voilà, on arrivait sur les scènes slam, on voyait qu'ils avaient les slameurs avaient des pseudos un peu bizarres. On s'est dit, bah tiens, on n'est pas plus con que les autres. Pourquoi ne pas prendre des pseudos un peu ridicules? Et donc voilà, Jackie Ido, mon ami, a pris John Pooch Chocolat, Fabien Marceau a pris Grand Corps Malade, et moi j'ai pris le comte de Boudherbala, parce que Boudherbala en arabe c'est les haillons, les guenilles, et le comte parce que la ville de Saint-Denis, un peu la cité des rois. Puis, voilà, c'était une espèce de faux noble, un aristocrate. Ça me correspond bien parce que je suis souvent sapé comme n'importe quoi.
Non, il y a la petite chemise de vacancier, tout sympa. On n'a pas l'image, j'en témoigne. C'est aussi l'idée du paradoxe que vous aimez beaucoup, qu'on retrouve dans le spectacle, avec souvent la comparaison entre les États-Unis et la France, par exemple. C'est ce genre de décalage, ces paradoxes que vous aimez beaucoup.
Oui, voilà, on vit dans une société du décalage. Et puis nous, on est constamment en décalage avec, voilà, dans toutes les situations de la vie. Donc voilà, ça nous correspond.
On marque une petite pause ensemble, on se retrouve juste après, on va évoquer le cœur du rendez-vous attendu le 6 juin au Zénith de Limoges, c'est le spectacle évidemment, on va essayer de savoir ce qui nous attend sur la scène du Zénith, à tout de suite.
On s'arrête et on danse, on s'arrête et on danse.
La deuxième partie de ce rendez-vous avec notre invité, le comte de Boudherbala, alias Sami Amezian. On parle évidemment de ce one-man show qui est attendu le 6 juin prochain au Zénith de Limoges, 20h30. On donnera le téléphone pour les dernières réservations à la fin de ce rendez-vous. Mais parlons vraiment du spectacle. Cette fois-ci, on a beaucoup parlé de vous et de cette évolution du monde du basket jusqu'à la scène et au stand-up. Arrêtons-nous avant le spectacle sur l'affiche, tout simplement. On vous voit en gros plan avec le chapeau quoi, du bouffon du roi. C'est le roi des bouffons. On est sur quoi ? C'est un côté vraiment irrévérencieux.
C'est un gros bouffon. C'est le bouffon à sa mère. Non, ouais, c'est un petit peu ça. C'était, voilà, c'est une affiche qui est née à l'époque. Je voyais un petit peu le côté plein d'humoristes. Je me disais, bah tiens, ce serait marrant d'un humoriste qui caricature un peu les autres, hein, qui se caricature soi-même. Puis voilà, je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas faire une photo avec un chapeau ridicule, hein, quitte à y aller, allons-y gaiement.
On le fait déjà sur l'affiche avant de le faire dans le spectacle, puisque vous parlez beaucoup de vous, de votre expérience aussi, avec beaucoup d'autodérision. Ce qui vous inspire, c'est quoi ? C'est quels autres artistes ? On parle, je crois, de Fellaini notamment, de Desproges, de Coluche. succès un petit peu détroit qui font le compte de Bouderbala finalement?
Bon, bah, c'est plus une vision perso, mais c'est vrai que ces artistes, voilà, j'ai beaucoup de respect pour ces artistes-là. Hein. Mais ouais, voilà, ils font partie de l'imaginaire collectif, enfin du mien surtout. Donc, c'est des artistes que j'aime beaucoup.
Alors, quand on parle de Fellac, de Desproges, on pense à un côté vraiment irrévérencieux. C'est ce qui fait aussi votre marque de fabrique, c'est vraiment un humour sans concession.
Oui, je pense qu'on peut, rire de tout avec tout le monde. Après, ça dépend juste déjà si c'est drôle, et puis ça dépend aussi du moyen de communication. C'est forcément compliqué quand c'est coupé au montage, en radio, en télé ou sur Internet. Ça pose toujours des petits soucis avec certaines personnes ou certains groupes de personnes, mais... Après, je pense qu'il faut vraiment se détendre, aller voir les spectacles sur scène, en live, parce que quand on passe 2 heures avec les gens, on peut aller beaucoup plus loin dans les sujets. Il y a une vraie connivence qui se crée, une vraie communauté du rire. Et c'est là où on passe des vraies d'excellentes soirées.
Alors quand on ne vous connaît pas et qu'on va sur Internet, on voit certains de vos sketchs. Il y en a un qui a beaucoup fait parler, c'était sur les Roms notamment. Certains vous disent, oulala, mais vous stigmatisez cette population-là. Vous vous dites, au contraire, le fait d'en parler, c'est justement de ne pas la stigmatiser.
Oui, moi je me dis, ayant des voisins Roms et ayant un voisin... Qui faisait la manche au feu rouge. Ce sketch est né de façon très conne. Voilà, j'arrive au feu rouge, il me demande 1 euro. Ok, tiens, 1 euro. Je repasse 2 minutes après, il me redemande 1 euro. Je dis, bon, mon ami, mon bel ami, je ne vais pas passer 16 fois dans la journée te donner ma paye. Hein, je ne travaille pas pour toi. Et je me suis rendu compte que le fait, comme ça, de lui dire ces vérités-là, ces choses-là, bah, mine de rien, c'est l'humaniser, parce que une certaine catégorie de la population en France, dont on n'aime pas parler, on se met des limites, alors que à partir du moment où ils font partie de la communauté nationale, non, je pense qu'il faut les charrier comme tout un chacun.
Ça nous réunit aussi finalement.
Oui, ça nous réunit, et puis ça, je pense que charrier l'autre, c'est lui donner une humanité que parfois certaines personnes ne voient pas dans l'autre. Et je me suis dit, il faut tailler tout le monde. On est arrivé à un moment en France, il faut en donner à tout le monde. Je pense pas qu'il y ait d'intouchables.
On le verra dans le spectacle, effectivement, tout le monde en prend pour son grade. C'est un humour, vous dites des fois, à l'algérienne. Qu'est-ce que ça veut dire de l'humour à l'algérienne?
L'humour à l'algérienne, c'est un peu, vu qu'il y a une démission au niveau de la politique, c'est une espèce de nihilisme. Une forme de nihilisme, de. Ni Dieu ni maître, on va charrier tout ce qui bouge, et puis de fatalité. Mais bon, ça nourrit un petit peu ce côté charrieur. Mais bon, après, on est toujours dans l'espoir et dans l'espérance. Hein.
Et dans le rire, évidemment. Alors, vous parlez de religion, mais il y a beaucoup de choses. Vous parlez du foot, vous parlez du basket, vous parlez de la musique notamment. Ce qui vous inspire le plus, c'est quoi? On a l'impression que le communautarisme, par exemple, vous amuse beaucoup et vous en jouez beaucoup.
Oui, parce que on parle beaucoup de communautarisme, alors que il y a des communautarismes, il y a un communautarisme social, il peut y en avoir un ethnique aussi, mais il est plus, social, je pense. Ouais, j'aime bien me parler justement de ces différences, mais c'est intéressant de passer par le cliché pour justement le déconstruire et charrier vraiment ce qui mérite d'être charrié. J'aime bien tailler tout le monde, en fait, pour résumer.
Et puis c'est un spectacle qui a un gros succès. On parle de, je crois, 700 000 spectateurs uniquement sur Paris. Maintenant, vous partez en tournée. Ça veut dire que c'est quoi? C'est l'effet crise où on se dit on a besoin de rire, on a besoin de décompresser. Et les spectacles de stand-up d'humoristes sont vraiment des incontournables pour tout le monde.
Je pense que c'est vrai que les gens aiment beaucoup les spectacles d'humour. C'est vrai qu'il y a une pluralité, il y a une grosse offre au niveau des spectacles. Après, là, nous, la chance qu'on a, c'est qu'il y a un excellent bouche à oreille. Je passe pas nécessairement en télé, ni en radio, sauf sur Kaolin FM. Mais la chance que j'ai, moi, c'est que les gens en parlent. Et puis quand je vais dans une ville, je reviens 6 mois après dans cette ville ou 1 an après. Et puis les gens en parlent énormément. Je les en remercie d'ailleurs. Et c'est la meilleure des coms. Mieux que la télé, mieux que la radio, c'est d'en parler autour de soi, le bouche à oreille.
Donc ça veut dire qu'on a démarré cette émission en disant la France vous disait non, 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 et les États-Unis oui, oui, oui. Aujourd'hui, le fait que la France vous dise beaucoup oui, 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 c'est un vrai soulagement, c'est une reconversion réussie.
C'est une reconversion réussie, mais parce que moi je fais la différence entre les élites françaises et la France. Le public français, ça n'a rien à voir avec les élites. Et c'est la chance de ce métier, c'est que on peut aller directement voir les gens et les gens vous disent oui. Et on peut pas les carotter, leur mettre une banane. Quand c'est mauvais, les gens vous disent c'est de la merde. Quand ils vous disent c'est bon et ils en parlent. Donc là, c'est complètement différent. voilà, sur le, par exemple, les, quand je disais les élites françaises, c'était par rapport que ce soit le sport ou le travail normal. Moi, j'ai pas de supérieur hiérarchique qui peut me donner l'aval ou l'accord pour avoir une reconnaissance. Là, quand c'est un rapport direct avec le public, c'est magnifique. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus d'artistes maintenant. Ils aiment ce contact direct avec les gens qui nous donnent la récompense.
Et ce sera le cas, j'en suis sûr, le 6 juin prochain, donc au Zénith de Limoges. On termine avec un mot sur les projets. Là, ce spectacle-là, il vous accompagne depuis bien longtemps. Il y a déjà en tête peut-être des nouveaux sketchs qui feront un nouveau spectacle complet.
Oui, là, il y a un deuxième spectacle qui arrive pour la rentrée, que je fignole. J'ai écrit un scénario aussi de film.
Donc vous avez vu au cinéma dans Super Chondriac, dans Les Seigneurs aussi, pour les plus vigilants. Ça veut dire que le cinéma, c'est aussi, pourquoi pas, un univers à explorer.
Oui, c'est un univers sympa, surtout qu'on me propose que des rôles de bourrin. Donc je crois qu'au niveau du bourrin, vous avez ce qu'il faut.
Si on a besoin, pour un court-métrage en Limousin, on laissera vos coordonnées.
Vous cherchez un bourrin, contactez-moi. non, c'est cool. Bah, après, c'est une certaine forme d'expression. Le cinéma, c'est intéressant. Mais c'est vrai que le spectacle vivant, le live, ça, il n'y a pas mieux parce que c'est du direct et on ne peut pas refaire la prise ou la faire une dizaine de fois. Non, vous le faites directement et quand ça passe, ça passe. Quand ça passe pas, ça passe pas.
On aura l'occasion de s'en rendre compte. Donc, je rappelle, le 6 juin, Zénith de Limoges. Et puis, on peut préciser que le spectacle, je crois, est prévu pour en DVD. Pour ceux qui, malheureusement, n'auront pas la chance de venir, d'ici à la fin de l'année, on pourra en profiter à la maison.
Exactement, un DVD qui arrive pour les fêtes. Donc, voilà, fin 2014, a priori, si tout va bien.
Pour finir le cycle et donner naissance au nouveau spectacle.
Voilà, pour arrêter toutes ces conneries et passer à autre chose, comme on dit.
En attendant, les conneries continuent. 6 juin, 20h30 au Zénith. Et les toutes dernières places, c'est auprès de Box Office, évidemment, 05 55 33 28 16. Samy Amezian, comte de Boudherbala, merci d'avoir été avec nous, en tout cas, ce matin. Et puis, on vous dit à très, très vite en Limousin pour un peu de basket et surtout beaucoup de rire sur scène.
Avec plaisir. Vive Limoges et vive les cerclistes et à très bientôt.
Ils tentent de se racheter d'ores et déjà, je le comprends.